la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Francis Cassis.
Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. La CEI appelle les membres des commissions électorales locales à se tenir loin des partis politiques. Insertion professionnelle, près de 200 jeunes auparavant sans emploi ou mal insérés, désormais aptes au métier du bâtiment et des travaux publics. Et puis, le Royaume-Uni annonce qu'il ne s'opposera pas à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le superviseur de la commission électorale indépendante de l'IFOU appelle les membres des commissions électorales locales de cette région et par ricochet toutes les commissions électorales locales du pays à être distants des partis politiques par rapport à l'opération de révision de la liste électorale qui va bientôt démarrer. C'était ce jeudi lors de l'installation de celle de l'IFOU. Écoutons Émile Ebroutier.
Je suis ici dans le cadre du renouvellement des commissions locales. Les commissions locales sont les démembrements de la commission centrale. Ce sont ces commissions-là qui, dans leur zone de compétence, suppléent la commission centrale dans l'exercice de ses fonctions. En tout cas, tout s'est très bien passé. Le vote s'est pratiquement fait par acclamation, par consensus. On n'a pas eu de difficultés majeures. Ils sont astreints, tout comme les membres de la commission centrale, dans l'exercice de leurs fonctions, à prendre position. Ils doivent lire ce que le code électoral prévoit et ce que les tests qui régissent les élections prévoient. Et c'est pour ça que je leur ai dit que ceux qui ont été proposés par des partis politiques, qu'ils se tiennent loin de ces partis politiques pendant l'exercice. Donc on ne peut pas être à des meetings de partis politiques ou à des meetings de réunions ou être les gardes du corps, le protocole d'un homme politique dans l'exercice de ses fonctions de politique. Et c'est ça la neutralité.
Le superviseur de la commission électorale indépendante de la région de l'IFOU, Émile Broutier, au micro de François Croix, notre correspondant régional. Quartier d'Adjamé Village, dans la commune d'Adjamé, des troubles entre forces de l'ordre et population ont éclaté hier matin. En effet, les habitants se sont fermement opposés à leur déguerpissement, réclamant un nouveau site de réaménagement. Mais l'opération s'y poursuit quand même, nous dit Christelle Yessou, qui y était.
À notre arrivée sur les lieux, régnait calme et silence. Au sol, on pouvait encore percevoir des débris de verre et de pierre, témoignant de ce qui venait de se passer. Kenzo, membre d'une brigade spéciale de supervision des casses, nous explique les raisons de cet affrontement.
S'il y a des troubles aujourd'hui, c'est parce que la population a riposté, c'est-à-dire n'ont pas voulu qu'on casse les maisons. Donc du coup, on était obligé d'employer la manière forte. Ils revendiquent, oh, ils n'ont pas raison, parce qu'on les a avisés. Aujourd'hui, ils indexent le gouvernement. Oh, le gouvernement même les a avisés, ils ont été dédommagés même avant tout ça.
Le problème semble être au niveau du nouveau site attribué aux populations, explique Kwasi Uriel, habitant du quartier.
Ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a très longtemps, cette voie-là devait être agrandie en fait. D'autres disent ont été dédommagés. On les a donné une autre place au niveau de deux plateaux. Mais le problème, c'est que les gens d'Adjamé disent deux plateaux, là, ce sont les parcelles en fait, ce sont les champs. Maintenant, quand on leur donne ce site-là, c'est pas normal, puisque c'est pour eux déjà. Donc ils veulent qu'on leur donne un autre coin, ce qui n'a pas été fait. Donc ils ne veulent pas que dans leur village soit touché.
Autre raison du mécontentement des populations, le non-respect de la distance annoncée.
Sarah et Broussier. Hier, il y avait une réunion à la chefferie du village. Le chef a dit que c'est 10 mètres suivants. Même, ils ont débordé, ils ont cassé des maisons, des trucs qu'ils ne devaient pas casser. Et les jeunes du quartier sont sortis, appeler les autres frères, essayer de les arrêter, mais ils n'ont pas pu, puisqu'il y avait plus de renforts.
Malgré ces manifestations qui ont causé quelques blessés selon des témoins, les casses se poursuivent sous la surveillance des forces armées.
Le phénomène du changement climatique pose un défi agricole à la Côte d'Ivoire, surtout dans la cacaoculture. Pour le relever, le fonds pour la science, la technologie et l'innovation Fonstie Park Stress entend financer l'université de Daloa pour des recherches visant des solutions. Ils ont à cet effet signé mardi une convention, nous explique Paul-Bénédicte Boulou.
Cet accord se traduira par la mise en place de programmes de financement spécifiques. Docteur Yaya Sangaré, secrétaire général du Fonstie Passeres.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose sur l'agriculture, est confrontée à des défis majeurs face au changement climatique et aux enjeux d'une agriculture durable, écologiquement responsable et dont les produits, notamment le cacao, sont acceptés par nos partenaires économiques extérieurs. L'Université de Dalloa, avec ses compétences en agroforesterie et le soutien du fonds Stipasres, peut jouer un rôle important pour la formulation des solutions endogènes à ces défis et problèmes.
Pour la présidente de l'université Jean-Laurion Guédé, ce partenariat aidera à asseoir les bases de leur ambition. Professeur Adoï Krou, Viviane.
Je m'honore aujourd'hui à formaliser ce cadre de coopération. Il s'agira de valoriser les résultats de recherche et d'apporter un appui non des moindres à la protection des recherches de UGLOG. Nous avons mis en place une équipe projet de veille, de suivi et de conseil pour accompagner les enseignants-chercheurs à capter les financements internationaux. Nous disposons d'outils pour être plus compétitifs sur le plan national et international afin de permettre à UGLOG d'avoir un impact perceptible dans la vie des communautés locales et celles de notre pays.
Notons que les deux personnalités ont paraphé les documents de cette convention, scellant ainsi leur partenariat pour les années à venir.
École de la deuxième chance. Dans le cadre de ce programme, pour résorber le stock de personnes sans emploi ou mal insérées, 169 jeunes formés au métier du bâtiment et des travaux publics ont reçu leur certificat de qualification professionnelle ce jeudi à Abidjan. C'était en présence des ministres Kofi Nguessan de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et Koné Bruno de la construction de l'urbanisme et du logement. Compte rendu, Junior Kardé.
Ces 169 impétrants de la première promotion font la fierté de l'école de la deuxième chance. C'est un modèle de réussite du partenariat public-privé, au dire de Stéphane Afro, directeur général de Keidan Group.
La cérémonie qui nous réunit est l'heureuse conclusion de la vision de trois acteurs, l'État de Côte d'Ivoire, qui a soutenu de toute sa puissance depuis 2023 ce projet. Keidan Group, dans lequel est née cette idée de formation et de qualification des invisibles, les apprentis et leurs parents, qui ont eu confiance en un modèle inhabituel de formation sous nos horizons.
Les caractéristiques de cette formation qualifiante sont expliquées par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan.
À travers cette première expérience, les jeunes ont été formés au métier de maçon, de menuisier coffreur, de ferrailleur, de carreleur, de staffeur plaquiste, de peintre bâtiment, de ferronnier. La méthode proposée est l'apprentissage à travers le chantier école. Il s'agit pour les apprentis de suivre un minimum de cours théoriques et de passer ensuite l'essentiel du temps sur le chantier à l'effet d'apprendre le métier en l'exerçant sur le terrain.
Le porte-parole des récipiendaires, au nom de ses pairs, a manifesté la détermination à relever tous les défis. Beaucoup Jean-Yves.
Après avoir obtenu nos diplômes, nous nous sentons confiants et prêts à relever de nouveaux défis. Cette formation nous a non seulement doté de connaissances techniques, mais elle nous a également donné la confiance nécessaire pour avancer avec détermination dans nos carrières. Nous sommes prêts à servir la nation.
La formation théorique de la première promotion a duré 9 mois. La deuxième cohorte de 250 jeunes est pour bientôt. Et sur 3 ans, c'est 600 jeunes qui bénéficieront de cette aubaine.
Une autre cérémonie de remise de diplôme, cette fois à des militaires. Après 10 mois de formation à l'Académie des Forces Armées de Zambakro dans la localité de Yamoussoukro, 22 militaires de plus d'une dizaine de nationalités ont reçu des mains du ministre ivoirien de la Défense Tene Birahima Ouattara leur diplôme de l'enseignement militaire supérieur de deuxième niveau. Témoin pour Radio de la Paix, Émilie Yao.
Évoquant les diplômes obtenus, le directeur du CESD Cours d'études supérieures de défense de Zambakro, le capitaine de verso Dadier Mondésir, a fait cette adresse aux 22 récipiendaires, dont 6 officiers ivoiriens, 15 de pays africains et un européen.
Ces symboles seront le sésame de votre entrée dans le monde très élitiste des officiers à haut potentiel. En effet, pendant ces 10 mois, vous avez été soumis à un enseignement qui prend en compte les caractéristiques d'un environnement géostratégique international qualifié de VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu.
Le ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, a entre autres remercié et félicité les uns et les autres pour les efforts fournis, non sans se réjouir de la confiance placée en la Côte d'Ivoire.
La présence de la douzaine de nationalités dans cette promotion confère au CESD un véritable statut de pôle d'intégration et de coopération régionale. Nous nous réjouissons de cette confiance et les assurons que le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour délivrer un enseignement de qualité.
Poursuivant, Tenny Biraïma Ouattara a exprimé sa satisfaction à la hiérarchie militaire ainsi qu'aux responsables du CESD.
Au vu des résultats proclamés aujourd'hui, je voudrais exprimer toute ma satisfaction pour l'excellent travail abattu.
Ouvert le 30 septembre 2019, le CESD a à ce jour formé 99 brevetés, au nom desquels 48 Ivoiriens, 50 Africains et un Européen. Émile Yao, depuis Zambakro, Radio de la Paix.
La réalisation des projets gouvernementaux dépend du financement du ministère des Finances et du Budget. Et pour plus de confiance des bailleurs de fonds, ce ministère vient de renforcer les capacités des coordinateurs et gestionnaires du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS, en vigueur depuis 2019. Là-dessus, écoutons sa coordinatrice Madeleine Yao.
Le ministère des Finances et du Budget est le principal acteur chargé de la relation financière avec les projets. Et donc c'est le ministre qui est l'administrateur. Par conséquent, toutes les performances des projets dépendent de lui. Et c'est son intérêt qu'il y ait une mobilisation forte de ses ressources pour pouvoir attirer la sympathie des bailleurs de fonds, de telle sorte qu'ils puissent accroître les ressources qu'ils allouent au gouvernement pour financer les projets. D'où l'idée de capitaliser sur ce principe. Et comme le PAGDS est un projet de gouvernance qui a pour objectif d'améliorer les aptitudes du gouvernement, des acteurs, des institutions publiques dans leur domaine d'activité, nous avons choisi le renforcement des capacités pour donner à ce ministre qui a la tutelle des projets les outils pour améliorer les performances. Dans les indicateurs d'allocation des ressources, le niveau de ressources allouées à un gouvernement dépend de sa capacité d'absorption. Plus vous êtes performant, plus vous recevez des ressources. Ça a été le cas pour le portefeuille de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 milliards de ressources disponibles parce que nous sommes performants. Mais il faut toujours faire plus parce que les défis sont nombreux.
Madeleine Yao, coordinatrice du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS. 10 personnes tuées dans un accident de la circulation de la nuit de mercredi à jeudi sur l'axe Bouakribe-Oumi, non loin du village d'Assekro. La correspondance de Joseph Assali.
Que s'est-il réellement passé pour qu'un véhicule de transport en commun appelé pique-nique s'encastre dans un camion remorque en stationnement dans la nuit de mercredi 24 au jeudi 25 juillet sur l'axe Bouaké-Béoumi, non loin du village d'Assekro? En attendant d'avoir les circonstances exactes du drame, ce sont 10 passagers du véhicule de transport en commun qui ont perdu la vie. Alertés aux environs des 0h21, les sapeurs-pompiers de la 3e compagnie de Bouaké se sont rendus sur les lieux. La gendarmerie a ouvert une enquête pour situer les responsabilités de cet accident meurtrier. Mais en attendant les résultats, pour l'heure, un constat s'impose. C'est que les véhicules de transport en commun pique-nique font de la surcharge sur les différents axes routiers, à savoir Bouaké-Sakassou, Bouaké-Béoumi, Djebounoua-Bouaké ou encore Bouaké-Katiola. En effet, conçus pour 7 personnes, ce sont 10 passagers et même plus qui sont à bord de ces véhicules, et cela au vu et au-dessus de tous. Responsables locaux du conseil du transport, forces de sécurité postées sur les différents axes routiers. Vivement que le drame survenu sur l'axe Bouaké-Béoumi interpelle tous. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
18h13, antenne universelle à Abidjan, 19h13 à Londres, une heure de plus. Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui qu'il retirait ses réserves concernant les mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant israélien, émis par la Cour pénale internationale de La Haye. Je peux confirmer que le gouvernement ne suivra pas les réserves émises par mon prédécesseur Rishi Sunak, et cela conformément à notre position de longue date selon laquelle il s'agit d'une question que la Cour doit trancher, a expliqué le nouveau Premier ministre britannique de gauche, Keir Starmer. L'ex-président américain Barack Obama a annoncé ce vendredi, aujourd'hui même, soutenu la candidature de la vice-présidente Kamala Harris à l'élection présidentielle de novembre prochain, amplifiant l'élan pris par la candidate démocrate dans une campagne complètement chamboulée. L'ancien dirigeant est l'un des derniers poids lourds démocrates à s'exprimer, alors que Joe Biden a assuré Kamala Harris de son soutien dès dimanche, immédiatement après avoir jeté l'éponge, rapporte l'agence France-Presse. Sport à présent, démarré mercredi dernier, les Jeux Olympiques ou JO 2024 en France, ouverts officiellement aujourd'hui avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Et la Côte d'Ivoire y présente 13 athlètes répartis dans trois disciplines sportives, l'athlétisme, les arts martiaux et l'escrime. Et César Yao nous parle des chances de médailles ivoiriennes.
Au taekwondo, Cissé Chekosala Junior n'a que l'or et un deuxième sacre à l'esprit pour ce rendez-vous parisien. Le natif de Boaké est le grand favori de la catégorie des plus de 87 kg. L'autre espoir de médaille est Rutop Bagby, couverte de bronze à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2020. Rutop Bagby veut réussir la passe de 3 sur le podium. En athlétisme, la Côte d'Ivoire rêve avec Marie José Talou Smith, la pouliche de John Smith est capable d'accrocher une place sur le podium à 35 ans. À côté de ces athlètes, plusieurs autres peuvent réaliser de grosses surprises. Jessica Gbaï, championne d'Afrique 2024, tentera un grand coup à Paris. Zuleya Dabone, présente pour la troisième fois au JO, rêve du podium. Il en va de même pour les fleuristes Maxime Isabelle Stéman et Jérémy Fafa Kériuel, la jeune Estan Batilly aura également son mot à dire. Jérémy Fafa Kériuel et Zuleya Dabone entreront en lice le 29 juillet 2024.
Merci à vous César Yao et c'est la fin de ce journal, le rappel de ces titres. La CEI appelle les membres des commissions électorales locales à se tenir loin des partis politiques par rapport à l'opération des révisions de la liste électorale qui va bientôt démarrer. C'est ce que le superviseur de la commission électorale indépendante de l'IFOU, Émile Gauthier, a dit à ceux des commissions locales de cette région qu'il a installé hier. Insertion professionnelle, près de 200 jeunes auparavant sans emploi ou mal insérés, désormais aptes au métier du bâtiment et des travaux publics. Ils ont reçu leur certificat de qualification professionnelle hier en présence du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que de celui de la construction, de l'urbanisme et du logement. Le Royaume-Uni annonce qu'il ne s'opposera pas à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, estimant que c'est une question que la Cour elle-même doit trancher. À présent, le magazine Humanité avec Sonia Anzian. Il ne pleut plus, mais il fait froid sur Abidjan.